C'est vrai que l'âge est l'une des causes principales de la maladie d'Alzheimer ou l'un des facteurs favorisants. Est-ce à dire que toutes les personnes avancées en âge ou toutes les personnes qui vieillissent vont développer cette maladie?
Il est important de signaler qu'on peut vivre sans développer la maladie d'Alzheimer. De même, la maladie peut aussi débuter avant d'être âgé. Donc, tous ces éléments-là doivent être connus par rapport au cours de la maladie d'Alzheimer. Dans 1% du cas, d'après les recherches, on a trouvé que cette pathologie, les causes sont bien connues. C'est dans 1%. Quand la maladie est cette fois-là, c'est lorsqu'il y a la présence de mutations sur des gènes bien identifiés. Ça, c'est quand il s'agit d'une pathologie où la cause autosomique dominante. Donc, une personne est porteuse de la mutation de ce gène-là et développera obligatoirement la maladie d'Alzheimer. De plus, elle aura aussi à son tour cette personne avec 50% de probabilité de transmettre ce gène muté à ses descendants. Voilà pourquoi il y a des familles entières de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des formes familiales qui se développent précocement avant même l'âge de 60 ans. Au-delà de tout, mais par exemple, les causes sont connues, c'est génétique, il y a une mutation. Là, c'est connu la cause, donc c'est tout à fait génétique et ça peut être transmis du papa à son fils et du à son petit. Donc, ça peut aller comme ça dans une famille où sont atteintes de la pathologie. Là, la cause est directement connue, mais malheureusement, c'est heureusement, je ne sais pas, mais c'est une forme rare. De développer pour 60 ans, donc avant même 60 ans, la personne déjà peut développer cette maladie. Mais dans 9% des cas, la maladie d'Alzheimer, on ne connaît pas la cause. Probablement parce qu'il n'y a pas une cause unique, mais une origine multifactorielle.
Peut-on connaître quelques-uns de ces facteurs?
Les facteurs environnementaux, les facteurs de risque cardiovasculaire, les facteurs de risque génétique, ces formes de maladie d'Alzheimer qui sont les plus courantes sont, si appelées par les scientifiques, sont des formes qui sont.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Donc, selon les explications que vous avez données, la maladie d'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes âgées, elle peut aussi toucher les personnes beaucoup plus jeunes.
Effectivement, la maladie d'Alzheimer peut toucher aussi les sujets jeunes. Et là, c'est la forme que nous appelons la forme génétique. Donc, cette forme peut se retrouver chez les sujets jeunes avant l'âge de 60 ans, la personne déjà qui développe la maladie d'Alzheimer. Là, c'est des formes tout à fait familiales. Et vous vous rendrez compte que cette forme-là, on peut trouver ça dans une même famille. Ça veut dire le grand-père en a eu, le papa et le fils aussi. Donc, avant l'âge, on commence déjà à présenter, bien évidemment, des troubles cognitifs. Ça veut dire des pertes de mémoire ou des souvenirs. Donc, c'est ce qui arrive très généralement. Mais d'autres formes, là, ce sont des formes qui viennent juste après l'âge de 60 ans, que ce soit à partir de 60 ans ou de l'âge de 65, donc ça peut commencer. C'est ça la différence entre cette forme qui est tout à fait génétique et une forme à qui nous sommes en train encore d'être réunis.
Selon vos explications, on peut développer cette maladie sans qu'il y ait des précédents dans la famille et inversement, ce n'est pas parce qu'un proche a été concerné qu'on le sera systématiquement.
Justement, Manu, même de ce qu'il fallait dire là-dessus par rapport aux causes de la maladie d'Alzheimer.
Concernant les causes, Alphonse Mbouaki, depuis Kinshasa, aimerait savoir si le surménage ou une forte déception peuvent conduire à la démence ou à la maladie d'Alzheimer.
Oui, il y a des facteurs environnementaux qui sont aussi à la base de la maladie d'Alzheimer. Alors, il faudra noter que parmi les facteurs environnementaux, les stress chroniques peuvent conduire au surménage. La consommation excessive d'alcool, les tabagismes et tous ces éléments qui constituent les facteurs environnementaux pouvant toutefois entraîner la maladie d'Alzheimer. Et là, ça peut nous envoyer déjà à répondre aux questions de nos correspondants sur son facteur de la maladie. Je crois que c'est là que peut-être vous voulez savoir quels sont les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, je profite de cette question pour répondre directement à cela. Il faudra savoir que la survenue de la pathologie de la maladie d'un primaire à un âge avancé serait la conséquence de plusieurs facteurs de risque rencontrés par le patient tout au long de sa vie. Et on peut retrouver des facteurs socio-économiques, exposition professionnelle, le mauvais régime alimentaire, les facteurs vasculaires. Donc, une pathologie qui a le prochrome, ça veut dire le annonce ou encore les facteurs qui annoncent la survenue de la maladie. Et les principaux facteurs de risque de la maladie de l'Alzheimer, c'est les facteurs métaboliques, les facteurs environnementaux que nous pouvons bien évidemment énumérer en passant.
Quelles sont quelques maladies qui figurent aussi parmi les facteurs de risque?
C'est comme le diabète, le type 2. Nous avons une hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, il y a l'obésité, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, les prêts chroniques, le surpoids peuvent également être considérés comme étant des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Jean-Baptiste Onga aimerait que vous lui expliquiez les symptômes qui permettent d'identifier la maladie d'Alzheimer.
Il faudra noter que les symptômes de la maladie d'Alzheimer évoluent selon les stades. Il y a certains qui classifient là en quatre en sept stades. Mais bon, la classification que moi j'utilise et je trouve trop spécifique, c'est la classification des symptômes en trois stades.
Quelles sont ces différentes étapes qui permettent d'identifier la maladie?
Le premier stade, c'est ce qu'on appelle le stade cognitif. Dans le premier stade, se caractérise par le trouble de la mémoire, que nous appelons l'amnésie, avec une incapacité au patient à acquérir de nouvelles informations.
Ces troubles amnésiques sont-ils seuls ou accompagnés d'autres signes?
Ces troubles amnésiques accompagnent d'un autre symptôme qui est l'absence de conscience de la maladie, ce qu'on appelle en nosologie, qui est la personne malade ne se rend pas compte de la sévérité de ses problèmes de mémoire et du caractère pathologique de ses difficultés. Pour le patient, il peut penser que c'est simplement quelque chose qui est relatif à son âge. Mais alors que c'est déjà l'installation de la maladie d'Alzheimer, le vieillard ne peut pas identifier s'il est déjà atteint de la maladie d'Alzheimer parce que le patient lui-même n'a pas conscience de la maladie. Ça, c'est au premier stade. Donc, il faudra retenir que le premier symptôme, c'est le trouble de la mémoire. Ça veut dire le patient ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas des faits immédiats ou faits récents ou encore des faits sans passé ou anciens.
Ça, c'est le premier stade. Que se passe-t-il au suivant, au deuxième stade?
Le deuxième stade, ce que nous appelons le stade modéré. Là, les symptômes liés à la mémoire sont toujours présents. Les troubles de mémoire, les oublis et autres sont toujours présents. Mais à cela s'ajoute d'autres difficultés telles qu'une incapacité pour le patient à effectuer des gestes et ce qu'on appelle la praxie, et en particulier à manipuler les objets de la vie quotidienne. Les choses qu'il avait l'habitude de manipuler, il ne peut plus les faire. Nous avons aussi, au deuxième stade, les troubles de langage, ce que nous appelons la famille. Le patient trouve maintenant l'incapacité à commencer à nommer les objets. Donc, il manque des mots. Pour certains patients, ils peuvent avoir des troubles d'articulation, ce qu'on appelle des traits. Il peut aussi s'ajouter, juste dans le deuxième stade, un problème de compréhension, des troubles de reconnaissance, ce que nous appelons et une désorientation spatiale, des troubles de raisonnement et de planification. Il devient alors impossible pour le malade de vivre seul.
Combien de temps cette étape peut-elle durer?
C'est la plus longue étape de la maladie. Elle peut durer des dizaines d'années. Donc, le patient est là, il a commencé sa pathologie qui peut présenter au premier stade. Prenons par exemple à l'âge de 65 ans, il a les troubles de mémoire. Donc, il peut la crise de l'attachement, c'est ce que je venais de dire tantôt.
Est-ce le dernier stade ou il y en a d'autres?
Le troisième stade de la maladie, c'est le stade avancé ou encore le stade sévère. Tous les symptômes qu'on a cités au premier et au deuxième stade sont toujours présents. Maintenant, la personne devient totalement dépendante, même pour les gestes élémentaires. Donc, les gestes plus simples et la vie quotidienne que le patient pouvait faire, il devient totalement dépendant.
Quelle est la durée approximative de cette étape?
Cette étape peut durer 3 ans, voire plus, et il termine malheureusement assez souvent par des décès des personnes malades ou souvent même des suites de complications directes. des infections ou encore des problèmes de dénutrition et consorts. Pour cette question de cause de la pathologie Alzheimer, il faudra seulement retenir qu'il y a les trois stades. Et les trois stades, je venais de les dire. Et à chaque stade correspond les symptômes bien appropriés.
Merci. Vous venez de répondre à une question de Pascal Kouamé qui nous a écrit depuis Abidjan. Il voulait savoir si une personne atteinte par cette maladie pouvait se rendre compte qu'elle est vraiment malade d'Alzheimer.
Oui, c'est là que j'ai répondu en disant que des fois, au premier stade, le patient ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas l'idée. Il peut oublier quelque chose. Donc, elle fait une oublie et il se dit, bon voilà, c'est le poids de l'âge, il n'y a pas de problème. Mais alors que c'est la maladie qui s'installe directement. C'est de cette façon-là que la maladie commence.
Docteur, vous avez énuméré beaucoup de signes qui peuvent alerter sur la survenue de la maladie d'Alzheimer. Quand on remarque ces signes-là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Quand vous remarquez des choses, ce qu'il faut faire, c'est pratiquement amener le patient à l'hôpital. Nous avons plusieurs personnalités, donc ça peut être le médecin généraliste qui va faire sa part, et après là, les neurologues et les neuropsychologues. Dès que vous remarquez que une personne qui a déjà à l'âge de 60 ans, qui commence à oublier des choses trop faciles, élémentaires, donc il ne sait plus faire, il perd dans les formes d'articulation, la coordination des mouvements, il commence à avoir des désorientations faciales. Donc, le patient, vous le dirigez directement à l'hôpital. À l'hôpital, ça va être un médecin généraliste, celui qui va faire les tests de mémoire, ce que nous appelons les tests de mémoire.
En quoi consistent ces tests de mémoire?
On va demander au patient les faits immédiats. Donc, il y a ce qu'on appelle la mémoire immédiate, la mémoire récente et la mémoire ancienne. Par rapport à la mémoire immédiate, on peut, si je peux répéter au patient une phrase, on demande au patient, par exemple, de dire « J'ai été à l'école il y a 2 ans, par exemple. » Et le patient, qui ne sait plus le faire, et vous attendez que je dis, répétez ce que je dis, et il ne sait pas le faire. Là, il y a un trouble de mémoire, et la mémoire immédiate qui est touchée. Vous pouvez aussi demander le fait récent, par exemple, vous demandez de la date de son anniversaire, et il ne se rappelle plus. Et la mémoire ancienne, c'est par rapport aux dates, par exemple, la date de dépendance de votre pays. Donc, tous ces éléments-là, si le patient ne se retrouve pas, malgré son niveau d'instruction, il ne se retrouve plus. Donc, ça peut nous permettre de savoir que le patient est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais aussi,
y a-t-il des examens complémentaires qui peuvent être faits?
Il y a aussi, sur le plan diagnostique, ce que nous appelons l'imagerie médicale. L'imagerie joue un grand rôle dans le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. C'est comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de visualiser une perte, par exemple, des volumes de l'hippocampe, qui est la région où la structure cérébrale de la mémoire. L'imagerie, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, peut nous donner une idée là-dessus et savoir qu'il y a une atteinte de telle part. Nous avons aussi la tête, ce que nous appelons la tomographie par émission des positrons, qui permet aussi de visualiser, par exemple, le métabolisme cérébral au cours de la maladie. Donc, tous ces éléments, voilà pourquoi c'est très important d'amener le malade à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer avant l'apparition des premiers symptômes. C'est possible. Mais ce diagnostic est possible. Je voudrais bien éclairer dessus que ce diagnostic très clinique, ou ce que nous appelons le diagnostic avant même l'apparition des symptômes, est possible uniquement pour les maladies qui ont une forme génétique ou héréditaire, et 1% des cas.
Que visent ces examens? Qu'est-ce qu'on recherche dans ces cas-là?
Dans ces familles, on recherche les descendants possédant ou non la mutation génétique. Si le gène est muté, cela veut dire qu'ils ont la maladie d'Alzheimer, mais qu'ils ne présentent pas encore des symptômes.
On va aller à la question d'Hakim Parker qui nous a écrit depuis Lubumbashi. Puisque la maladie d'Alzheimer peut être d'origine génétique, il aimerait savoir si c'est possible de connaître les modes de transmission dans ce cas-là.
Je disais tantôt qu'il y a cette quantité génétique, c'est pas la mutation de gène. Vous voyez, c'est pas la mutation génétique que la maladie peut se transmettre d'une génération ou un genre d'un père vers à son fils. C'est héréditaire, ça il faudra l'étudier, mais c'est à un pourcentage trop faible. C'est la mutation génétique et cela peut toutefois conduire très facilement à à la survenue de la pathologie. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement, comme je pouvais expliquer? La maladie d'Alzheimer, bien évidemment, une affection, je pourrais dire une affection neurodégénérative qui entraîne la détérioration progressive des cellules nerveuses. Elle est due à une accumulation de protéines anormales dans les cerveaux. Nous avons les protéines bêta, amyloïdes et les tau. Ces accumulations forment les deux lésions cérébrales de la maladie. Donc, les deux lésions cérébrales de la maladie, appelées plaques amyloïdes et dégénérescence neurofibrillaire. On sait aujourd'hui que les lésions cérébrales se formaient à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, grâce aux efforts de recherche et tout ce que les scientifiques sont en train de faire. Alors, pour ce qui est de cette forme-là, c'est une mutation, une anomalie comme ça, qui est transmise d'une génération à une autre. Et les gens peuvent tout à fait facilement développer la maladie dans une famille toute entière.
D'accord. Alors, Alphonse Bouaki veut savoir si cette maladie est soignable ou bien si...
Il n'est malheureusement pas encore possible d'inverser la progression de la maladie d'Alzheimer. Mais cependant, il existe des traitements médicamenteux qui permettent de traiter certains symptômes de la maladie. Donc, le traitement pour stopper et inverser la maladie n'existe pas encore, mais au moins, on s'attaque aux symptômes pour qu'on soit pu améliorer la qualité de vie de nos patients.
C'est déjà quelque chose. Et comment se fait cette prise en charge?
Cette prise en charge est pluridisciplinaire. Que la prise en charge fait intervenir plusieurs personnels soignants dans plusieurs disciplines. Ça peut intervenir les psychiatres, les neurologues, les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les infirmiers psychomotriciens et les orthophonistes. Aujourd'hui, il faudra noter qu'il existe aussi ce que nous appelons des thérapies non médicamenteuses qui sont en plein essor. Presque partout. Mais bien qu'il existe peu de preuves scientifiques, mais peu des effets cliniques randomisés et contrôlés peuvent toutefois prouver une réelle efficacité. Mais tous les personnels soignants en contact avec les malades s'accordent à dire qu'il existe un réel effet bénéfique par rapport à cela. Mais l'ensemble des thérapies non médicamenteuses ne sont pas prescrites pour améliorer l'évolution cognitive du malade, mais plutôt pour juste améliorer l'évolution de la dépendance.
Est-ce donc important de proposer des solutions alternatives aux patients?
Il est nécessaire de proposer aux malades toujours des solutions alternatives à la prise en charge trop importante des neuroleptiques, par exemple, dans les institutions. Il y a aussi pour nos amis les psychiatres qui peuvent utiliser les antidépresseurs ou les anxiolytiques. C'est une prise en charge pluridisciplinaire, mais l'objectif, c'est pour juste éliminer certains symptômes et améliorer sans doit faire la qualité de vie de nos patients. Mais il faudrait retenir qu'il n'est malheureusement pas encore possible d'inverser la progression de la maladie d'Alzheimer ou encore de traiter et guérir complètement la pathologie.
Docteur, y a-t-il un moyen de prévenir cette maladie, comme le demandent Hakim Parker depuis Lubumbashi, Mario Le Charreau et Jean-Baptiste Onga?
Il y a moyen de prévenir la maladie par une vitamine. Et plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence certains facteurs protecteurs qui influent positivement sur le déclin cognitif. Les principaux sont l'activité physique régulière. L'activité physique régulière joue un grand rôle dans la survenue de la maladie et la progression vers la mort pulmonaire. Nous avons aussi une activité cognitive et sociale. Une bonne alimentation, et nous recommandons beaucoup plus, par exemple, les produits céréaliers à grains entiers. Nous avons le fruit, les légumes, les soja, l'huile d'olive, les poissons, les noix. Ces choses améliorent sans soit plus le niveau de la survenue de la maladie ou lorsque même la maladie est déjà installée. Donc, on peut toutefois continuer avec la prise des aliments, faire régulièrement les activités physiques, éviter l'obésité, soigner complètement les formes de diabète lorsqu'il y a une hypertension. Donc, tous les facteurs favorisants doivent être traités préalablement. Et voilà ce qui peut résoudre le problème de nos malades.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Docteur, est-ce qu'on retrouve aussi beaucoup de malades d'Alzheimer en Afrique et en RDC en particulier?
Oui, cette pathologie est mondiale. C'est une pathologie qui touche plus de 20 millions de personnes dans le monde. En RDC, nous n'avons pas de statistiques. épidémiologique, on va dire, voilà, c'était le nombre de personnes atteintes. Parce que si vous vous rappelez, je venais de le dire tantôt que dans le diagnostic, il y a aussi une maladie médicale qui intervient. Ce n'est pas tout à fait tellement clinique, on se dit, voilà, c'est la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est vrai que la clinique joue un grand rôle, mais pour qu'on soit précis pour faire des examens complémentaires, je venais de dire qu'il fallait faire des IRM, il fallait faire la thermométrie par émission de microns, tout ça. Donc, ces éléments-là, c'est ce qui peut donner en Afrique. Malheureusement, nous n'avons pas une base de données qui puisse nous aider à avoir des statistiques par rapport à la maladie. Et voilà, il y a tel nombre de personnes, exactement, mais c'est une pathologie qui touche tout le monde. Il n'y a pas de race. Mais seulement les Africains, la plupart par rapport à l'espérance de vie, les gens meurent bien enfants. Vous voyez? Ce qui peut faire que, après que la personne atteigne par exemple 60 ans ou 70 ans et développer la maladie, mais bon, il n'a pas de bonnes conditions de vie. Et puis il meurt avant. Les malades, surtout les vieillards, surtout on les trouve déjà bon, invalides, on les laisse à la maison, on les amène à l'hôpital, à la phase terminale pour les accompagner déjà à mourir peut-être. Voilà un peu le problème et la difficulté qu'on a en Afrique d'avoir des données précises sur la maladie d'Alzheimer. Et voilà que moi j'estime que les statistiques en Afrique, ça peut être un peu faible par rapport aux autres pays occidentaux.
Pour terminer, docteur, quel peut être l'apport de la famille pour aider le patient à vivre avec sa maladie?
L'apport de la famille est trop capital dans l'accompagnement psychologique et aussi même clinique, parce que les personnes à pouvoir identifier la maladie, c'est l'entourage, c'est la famille qui doit identifier la maladie de le départ. Donc dès qu'on a le premier symptôme qui est la perte de mémoire, c'est la famille de détecter, parce que la personne ne se rend pas compte elle-même. Voilà, comme je le disais au départ, donc il faudra que la famille soit là comme un soutien de plus pour l'amener à l'hôpital. Parce que plus tôt la maladie est diagnostiquée, et mieux on a une bonne évolution de la maladie. Et aussi aux patients et à tout le monde, de pouvoir avoir surtout l'hygiène alimentaire qui doit être équilibrée pour ne pas tomber dans l'obésité, le surpoids, le problème de diabète, les hypertensions artérielles, le tabagisme, l'alcool excessif et toute autre chose que je venais de dire. Alors, ces éléments doivent être évités et pouvoir espérer une vie saine. Et voilà un peu ma conclusion. Et en Afrique, nous avons toujours besoin des équipements nécessaires, surtout pour pouvoir nous aider à former une base de données et pouvoir prendre en charge le patient souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Nali.
Vous venez de suivre la discussion que nous avions eue avec le docteur Prince Kazadi, neurologue à Lubumbashi en RDC. Elle était basée sur la maladie d'Alzheimer. Le docteur Prince Kazadi a évoqué entre autres les signes qui peuvent alerter et la façon dont se fait la prise en charge. Nous sommes également arrivés au terme de ce programme santé de la Voix de l'Amérique. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger à partir de notre site voaafrique.com. Ce programme santé vous a été présenté par Nani Tetalani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555.